rouler bourré, à déconseiller d'ailleurs. Voilà, merci à vous de votre fidélité, merci de vos coups de fil. On se retrouvera avec le plus grand plaisir samedi prochain, même heure, même antenne. Et pour la personne Maurice de Saint-Jean-Linière qui m'a demandé une chanson des demoiselles qu'on a reçues il y a 15 jours, j'essaye de voir si je peux me le procurer, le morceau. Sinon, si c'est pas possible, j'essaye de m'en procurer un autre et j'essaierai de vous faire plaisir de repasser un titre des demoiselles qu'on a reçu avec plaisir, on le rappelle. Voilà, je me retire sur la pointe des pieds et je vous retrouve samedi prochain dans quelques instants. Polémix et la voix off et la chanson française, n'oubliez pas demain, 8h30 midi, ma chansonnette avec Daniel et Chantal, la musique zouk tout à l'heure avec le président Jean-Louis, 17h-19h, la balade intertropicale. Et JP et Marcel demain midi de 12h à 14h pour Ambiance Soleil. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller faire un tour au Parc Expo, le forum des associations Agora. Radio G à son stand. Salut, à samedi prochain. Bye bye.
Comment fonctionne le monde, etc. Peut-être découvriront-ils un jour la clé pour se débarrasser de leur esclavage. Sans histoire, les gens sont des esclaves. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se transforment en esclaves, même s'ils sont sous chef de rayon au bon marché.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à vous dans cette émission, une fois de plus, consacrée à l'enseignement de l'histoire, à l'école et dans les médias. Ou plutôt au non-enseignement, au sabotage volontaire de l'enseignement de l'histoire et surtout de notre histoire populaire. André, notre copain prof d'histoire géo, vous l'a souvent dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire officielle, qui n'est que de la propagande. Mais l'histoire, ça ne se fait pas avec des opinions. L'histoire est une science humaine qui traite de faits révélés par des sources croisées entre elles. Et l'époque moderne ne manque pas d'archives. Alors en gros, dès le départ, l'enseignement de l'histoire qui se propage sous la Troisième République avec l'école obligatoire est bien entendu un tissu de propagande qui raconte un roman national dont l'un des buts est de préparer une génération d'élèves à aller se faire massacrer dans une guerre contre l'Allemagne, ce qui d'ailleurs ne va pas rater. La propagande scolaire expliquait aussi aux petits blancs qu'ils étaient supérieurs aux indigènes des colonies. Et ça a duré assez longtemps. Aujourd'hui, la propagande qu'on appelle « histoire » à l'école a d'autres objectifs. Soumission au capitalisme, soumission à la domination américaine, soumission à la dictature de financiers élus par personne mais qui gouvernent pourtant l'Europe, soumission au mythe que nous vivrions en démocratie, etc., etc. Or, vous savez que les gouvernements qui défilent en France depuis des décennies sont tous au service d'une oligarchie, où les juifs ne sont d'ailleurs pas du tout majoritaires, quoi qu'en disent les antisémites. Une oligarchie financière qui n'a absolument aucun intérêt à ce que les gens étudient l'histoire, et encore moins notre histoire populaire, évidemment. Par exemple, plus personne ne sait quand et à qui l'on doit la sécurité sociale, le système des retraites et toutes ces conquêtes sociales actuellement détruites par les gouvernements successifs. Et quel intérêt les gouvernants auraient-ils donc à raconter des luttes sociales à des gens qui pourraient se mettre à réfléchir, voire à s'en inspirer? Le sabotage volontaire de l'enseignement de l'histoire, on en parle encore aujourd'hui autour d'un article du Monde Diplomatique avec notre gang de profs d'histoire géo en colère. Avant de retrouver les copains profs remontés comme des coucous, une fois de plus, vous n'allez pas y couper. Vous allez encore avoir droit à l'une des chansons les plus diffusées dans cette émission dès qu'il s'agit d'école.
Élève la bilure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Podaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis, citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères, tels que la langouste et le rat à dégoût, le cheval de bois, le pou, la belle-mère, qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne.
Présent.
Vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo, mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrela.
Présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Quand on parle d'école, on n'a jamais rien fait de mieux que le lycée papillon, chanté par Georgius en 1936. Salut Daniel.
Salut à tous.
Salut André.
Bonjour à tous, bonjour à mes amis. Je suis très content d'être avec vous.
Salut Cédric.
Salut.
On va parler de l'école et du sabotage volontaire, non seulement de l'école, mais en particulier de l'enseignement de l'histoire, ou comment fabriquer des générations d'abrutis qui ne savent pas d'où ils viennent, donc ne peuvent pas savoir où ils sont et encore moins où ils vont. Comment, en privant les gens de leur passé, de leur histoire, eh ben on peut fabriquer des veaux qui peuvent marcher ou vers l'abattoir sans broncher, ou au pas de loi, pourquoi pas à l'abattoir en marchant au pas de loi.
C'est le comble du comble du comble. Ils vont vers le fascisme, ils sont contents et on va les abattre au bout du chemin. Quoi.
C'est toi qui m'as dit il y a déjà une dizaine d'années, quand t'enseignais à tes élèves, tu les trouvais, André, tellement abrutis par moment que tu leur disais « Mais bande, vous êtes tellement abrutis que si vous viviez dans une dictature fasciste, vous vous en rendriez même pas compte. »
Et je le pense profondément, les gens sont plus capables de savoir dans quel type de régime, etc. Ils ont des mots tout faits, des images toutes faites, des lieux communs, et trucs comme ça. Mais l'analyse, savoir si on est en démocratie, dans un pays fasciste, ils ne savent pas, hein, une dictature, ils peuvent pas comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans une authentique dictature d'oligarchie, et ils pensent être dans une démocratie où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Hein.
Heureusement qu'Emmanuel Macron est un militant des droits de l'homme, férocement opposé aux violences policières. On va donc parler d'école. Allez, on vous promet de pas être trop lugubre, peut-être qu'à un moment, tout ça est tellement pathétique qu'on va peut-être même rigoler un peu. Dans le Monde diplomatique de septembre 2019, cet article « La bienveillance, cache-misère de la sélection sociale à l'école ». Alors que l'éducation nationale connaît un manque croissant de moyens et d'effectifs, un mot d'ordre y fait floresse. La bienveillance que les enseignants sont invités à témoigner à leurs élèves et qui pourrait triompher de tous les obstacles. Cette antienne masque l'impuissance de l'institution à réduire le fossé entre les enfants des classes favorisées et ceux des classes populaires. Et on le rappelle donc autour de ce micro, une bande de copains qui sont professeurs d'histoire-géographie, à qui, à l'occasion, on demande de signaler leurs élèves qui ne sont pas Charlie.
Alors, ça commence fort là quand même. Alors, l'article effectivement est intéressant et volontairement polémique, en partant en fait des propos de M. Blanquer qui a placé la dernière rentrée sous un triptyque « République, excellence, bienveillance ».
Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Éducation nationale, avec sa tête de scientologue rabiste.
On avait dit qu'on était moins méchants cette année, et voilà, c'est parti.
Pas du tout, on n'a jamais dit ça. André, t'as dit ça, toi?
Non, jamais, sûrement pas, hein. je vais rester très méchant.
Alors, le premier terme du triptyque, République, ne pose pas de soucis. Effectivement, depuis Jules Ferry, on sait que l'école se donne comme vocation, au-delà de la formation professionnelle, d'assumer un rôle de citoyenneté et de transmission des valeurs républicaines, de les apprendre, ces valeurs républicaines, et aussi de les éprouver au quotidien dans la pratique de la classe et dans la pratique plus générale de l'école. Même si on peut quand même s'étonner du maintien d'un système privé qui sape la mixité scolaire et renforce la ghettoisation de nombreux établissements, et ainsi sape quand même le principe de l'égalité, l'un des points fondamentaux de notre République.
C'est dit poliment dans le monde diplomatique, hein. Quand t'habites un quartier de merde, tes mômes y vont en zep dans un bahut de merde.
Voilà.
Excusez-moi, je traduis de manière un peu crue.
Voilà, l'égalité est sapée, mais du moins on apprend du moins les valeurs de liberté et de respect de l'autorité. Le terme d'excellence, quant à lui, fait l'objet d'une première polémique, mais assez brève dans l'article, hein, qu'il expédie en quelques lignes. L'excellence, en fait, est un souci de concentrer les efforts et les moyens de manière disproportionnée sur les élèves en difficulté au détriment des autres et de montrer que certains professeurs, etc., se disent que bon, quand même, c'est bien de faire l'école pour tout le monde, mais qu'il faut quand même dégager une élite assez rapidement qui puisse former les futurs cadres de l'administration et d'En Marche. Alors,
c'était perfide, ça. Ça manquait de passer inaperçu, mais...
Là, effectivement, bon, il y a un peu plus de débat, mais ce n'est pas le terme qui intéresse le plus les auteurs, qui se concentrent sur le terme de bienveillance qui a été mis en avant dans ce triptyque pour le moins surprenant de la part de Monsieur le ministre. Il y a un changement de sens et de contenu dans le terme bienveillance. Effectivement, d'une qualité intrinsèque et naturelle que doit avoir tout pédagogue exigeant, qui encourage, aide les élèves, notamment ceux les plus en difficulté, c'est une qualité que tout le monde doit avoir et il serait malséant d'être malveillant depuis longtemps, et de discriminer les gens, de les humilier, etc. Ça fait longtemps que ce genre de méthode est condamnée. Mais là, le problème, c'est que ce terme a été galvaudé par les multiples ministres qui se sont succédés, hein, tous bords confondus, hein, rue de Grenelle, où siège l'Éducation nationale. Notamment, c'est un terme en vogue depuis Martine Aubry, socialiste, Vincent Peillon, qui ont placé bon nombre des rentrées sous le signe de la bienveillance. Et je cite M. Peillon, qui, dans le cadre de son programme qui s'appelait « Refondons l'école de la République », lancé en 2012, il disait « Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour ». Je vois les regards consternés autour de moi. La pédagogie compréhensive, effectivement, serait la clé de tout. Le problème, c'est qu'en insistant sur la posture professionnelle, et non pas sur les contenus scientifiques, sur les moyens qui sont alloués à cette charge éducative, le ministère fait peser l'échec des élèves sur la posture professionnelle du professeur. Si l'élève échoue, c'est qu'il est découragé parce que vous n'avez pas été assez bienveillant et on fait passer, bah oui, c'est ça, et on fait passer au second plan la baisse du nombre d'heures d'enseignement, y compris dans les matières fondamentales, français, maths, dont le volume horaire a considérablement baissé, notamment depuis les réformes Bérou dans les années 90. Par exemple, je prends un exemple très clair, alors là très actuel, avec la réforme du baccalauréat qui est posée depuis la rentrée, la SVT est rendue à 1h30 en seconde, et avec la réforme dans les classes de première et terminale, imaginons quelqu'un qui a un profil scientifique, actuellement il va en terminale S, il aura 16h30 de matière scientifique, 6h de maths, 5h de physique, 3h30 de SVT, plus 2 heures de spécialité qu'il choisira dans ces 3 matières, auxquelles s'ajoutent des heures d'aide personnalisée, qui n'auront de personnalisé que le nom, mais qui permettaient quand même d'appuyer ces élèves, notamment les plus en difficulté, sur un certain nombre de problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans ces matières. Donc 16h30 plus 2, ça fait 18h30. Aujourd'hui, là c'est la dernière session. Là. Les élèves de demain n'auront que 12 heures, sèches. 6 heures de physique ou 6 heures de maths, 6 heures de SVT, En tout cas, on perd 4h30 plus les 2 heures d'AP. C'est vrai que la France n'a pas besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, de personnel qualifié, ça se saurait. Mais quand on perd 4h30 de maths et de matières scientifiques, comment on peut exiger ensuite un niveau correct si on tient compte qu'on peut servir éventuellement à quelque chose en cours? Donc, on voit là une nouvelle mode se répandre qui a d'abord transformé les professeurs en enseignants et maintenant en animateurs d'activités distrayantes. Je cite les consignes. On insiste très clairement sur la forme, beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Je n'insiste pas sur les stages débilitants infligés aux professeurs, notamment la fabrication de potounes. Alors j'invite nos auditeurs à aller regarder ce que sont les potounes. Ce sont des petits bonhommes qui bougent et donc on a des stages pendant 3 jours visant à nous faire fabriquer des potounes, c'est-à-dire des petits personnages amusants qui vont gigoter sur les PowerPoint pour capter l'attention des élèves. Et on nous invite même à faire des potounes à nos élèves, c'est-à-dire prendre des heures et des heures à savoir manipuler un logiciel qui ne sert à rien afin de transmettre des connaissances basiques sous forme d'exposé à leurs camarades. C'est plus attrayant, donc forcément, ça sera beaucoup mieux. Bref, des activités chronophages sans aucun gain intellectuel. L'article continue également sur la question des injonctions, des consignes très claires pour enlever les zéros pour les devoirs non rendus en classe, afin d'améliorer nos appréciations, afin que les appréciations soient jugées positivement. Certes, bien sûr, il serait complètement stupide et contre-productif de casser un élève en étant insultant vis-à-vis de sa personne, parce qu'il travaillerait mal en classe, mais on invite les proviseurs, les principaux, à changer les appréciations afin qu'elles soient, je cite, « positives ».
Tu veux dire à modifier les appréciations des enseignants, des professeurs ?
Ils ont des incitations à le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais ils sont invités, voire incités à le faire. Ensuite, il y a un constat objectif, ce n'est pas que la génération serait moins bonne que la nôtre, mais il y a à l'évidence des problèmes de maîtrise de l'écrit qui se confirment de plus en plus. Peut-être ceci est-il lié à la perte d'horaire de français en collège, qui équivaut quand même à une année de français, quand même perdue, si on prend toutes les réformes depuis les années 90. Alors comment faire pour ne pas tomber sur ce problème qui est récurrent dans toutes les matières? Parce que c'est pas qu'en français. Quand on a un problème de rédaction, ça se retrouve dans toutes les matières.
Et tout le monde n'a pas un problème de rédaction. Il suffit d'être riche et d'avoir des parents riches qui te payent une éducation. Après tout, pour faire tourner un pays, allez, je suis large, besoin de 10% d'une population. Aujourd'hui, avec les machines et tout ça, il n'y a pas besoin de tous ces gens cultivés qui pourraient lire des livres, Cédric. On va quand même pas faire un peuple éduqué et éclairé qui serait capable de réfléchir.
Bah non, tu t'imagines tous ces gens qui seraient des contestataires, des gens critiques et tout. Vaut mieux faire des veaux quand même, c'est mieux.
Et encore, quand je dis qu'on a besoin que de 10% d'une population pour faire tourner un pays, je suis extrêmement large. Vous avez quand même deux profs qui ont passé 43 années et demie à l'éducation nationale, qui ont vu la destruction systématique et volontaire de l'école de la République pour faire des abrutis. Et moi-même, fils de prof, j'ai vu mon père rentrer du boulot tous les soirs tellement écœuré que je me suis dit que je ferais jamais ce boulot-là, que j'ai quand même fait, et que j'ai fait dans le privé. T'as des secondes dépotoirs qu'on appelle générales. Avant, la soi-disant élite, elle faisait maths et schle. De notre temps, quand on était au lycée Balzac, Cédric, bon, aujourd'hui ça s'appelle section européenne. Et qu'est-ce que t'as là? T'as des élèves dont les parents leur payent des cours particuliers, qui ne viennent en cours que pour conforter des connaissances qu'ils ont déjà. Et eux, ils savent l'écrire, le français. Ils se font pas repérer sur Facebook en faisant des fautes d'orthographe. De toute façon, ils sont pas amis avec n'importe qui, ces gens-là. Voilà, la solution, elle est simple. Soyez riches et payez des écoles de riches, de vraies écoles, à vos gosses. Des écoles où il y a des pions, où il y a des proviseurs qui font encore leur boulot. Des CPE qui appellent les parents dans l'heure quand ton élève est parti fumer des pétards dans le square d'à côté. Voilà, pas dans les lycées dépotoirs de la République où on n'a pas besoin d'enseigner les gens, des fois qu'ils réfléchiraient. Ça fait du bien de le dire. Hein.
Ça fait du bien, ça lâche. Évidemment, ça retombe sur ce que tu dis, c'est-à-dire que toutes ces mesures-là, c'est une conclusion partielle auquel arrivent les auteurs de ce texte en disant qu'on brise le thermomètre pour tenter de faire baisser la fièvre. Pour résoudre ces problèmes d'écrit, les professeurs sont incités à multiplier les processus alternatifs à l'écrit. Alors ça passe par les fameuses cartes mentales, les cartes heuristiques. Ça a été très à la mode au collège, là, notamment depuis la réforme du collège, et on voit arriver ça au lycée de façon massive, c'est-à-dire boucher des trous avec des petits papiers, des choses toutes faites, plutôt que d'arriver sur un exercice écrit. Je passe sur l'évaluation en compétences.
Dépêche-toi parce que André va exploser.
Alors l'évaluation en compétences qui vient du primaire, qui est installée en collège déjà depuis plusieurs années et qui est appelée à se diffuser au lycée. Ces évaluations en compétences se déclinent en domaines qui eux-mêmes se déclinent en items avec des titres parfois pittoresques dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, y compris les professeurs, ce qui est un petit peu gênant. Et donc on remplit des cases avec à l'évidence des confusions entre les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Et tout cela arrive à des phénomènes de surévaluation sur le papier des compétences de l'élève qui se retrouvent confrontés ensuite à des systèmes notés, des systèmes de concours où là, bah, y a pas de pardon et qui provoquent des désillusions extrêmement graves chez ces gens qui disaient « Bah oui, mais attendez, j'avais tous mes petits bonhommes verts, mes petits smileys et compagnie. Et puis là, j'ai trois, quoi. »
Daniel est méchant, il rigole pour pas pleurer.
Il ricane, il est méchant.
Ça dépasse tout quand même.
Bon, ils ont tout intérêt à fabriquer des abrutis. Voilà. Excuse-moi, je reviens à mon père. J'ai vu rentrer du boulot pendant 40 ans. Je l'ai entendu tous les soirs et à chaque rentrée dire « c'est incroyable, les élèves et leurs parents sont encore plus abrutis que l'année d'avant ». Mais quand tu dis ça sur 40 ans de carrière, ça fait deux générations d'abrutis qui ont eu le temps de se reproduire.
Oh putain, ça casse.
Que les sociologues refassent leur boulot depuis 68, hein, parce que le jeune, il est de gauche, il est Cohn-Bendit, il est je sais pas quoi. Je pense que le jeune, là, ce serait pas étonnant qu'il devienne fasciste. Parce que vu la façon dont l'histoire n'est pas enseignée volontairement, eh ben, j'en entends, moi, des gamins qui disent « Oh bah tiens, Le Pen ou Marion ou Maréchal Nouvola, on n'a jamais essayé. » Évidemment, ils savent pas que ça a été le cas entre 40 et 44. Bon.
C'est à ses enfants, à leurs frères, aux petits-enfants des écoles de France, que le maréchal qui voit en eux l'espoir du pays est venu parler simplement, comme il sait le faire, dans la modeste école d'un village de l'Allier, Périgny.
Jeunes élèves des écoles de France, si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, au moment où vous recommencez une année scolaire, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France. Bon travail, bon courage et bon résultat.
Sa famille a vécu longtemps sans souci. Sa mère était si gentille, son père aussi, Dieu merci. Heureux comme un coq en pâte, il atteignit l'âge ingrat. C'est là, sous sa sgade, l'âge du baccalauréat. Ce jour-là, les messieurs noirs l'entourent effrayants à voir. On lui dit qu'un air sévère, qu'avez-vous à déclarer? Déballez-nous votre affaire et veuillez nous éclairer. Déclarez-nous sans embâge pour ne pas rater le bachot. Ce qu'il y a dans votre bagage, et servez-nous ça tout chaud.
Quel est le nom des neuf muses? Parlez-nous de l'hypoténuse.
Du carré, là, pas d'excuses, ce sont des sujets tout cuits.
Que fut la triple alliance, comparez Plot et Terence.
Définissez l'existence, puis l'essence, et ce qui s'ensuit.
Montrez les progrès de la guerre en allant du lance-pierre à l'énergie nucléaire.
Bon, ça va, voyons Pascal, que savez-vous de son vide?
D'où nous vient l'huile d'arachide?
Dessinez un trombeïde du genre concavoïdal.
Parlez-nous de César Jules.
De l'emploi du point virgule.
Quel est le rôle du pédoncule?
Déclarez-nous rapidement pourquoi la brique réfractaire du point de vue alimentaire c'est mieux que la pomme de terre dans le système des Allemands.
Quel fut entre parenthèses le rôle de la catacrèse dans la poésie portugaise?
Le recul au sablier.
Vite, c'est votre dernière chance d'éballer
vos connaissances, car demain, comme nous, je pense, vous aurez tout oublié.
On a vos cartes sur table sans vous laisser égarer sur ces sujets remarquables. Qu'avez-vous à déclarer?
Si au moins on enseignait les frères Jacques dès la maternelle, on n'en serait pas là. Retour avec Cédric sur une énième réforme de l'école, dans le but évident de poursuivre sa destruction entamée depuis des décennies par tous les gouvernements qui défilent au pouvoir.
Si je prends la réforme du lycée, on assiste à une baisse du nombre d'heures globales que les élèves passent en classe. On est tombé à 24 heures en seconde, soit 3 heures de perte par rapport à l'ancienne mouture, avec une multiplication des séances d'examen. Désormais, les élèves seront évalués en janvier de première, en juin de première, sur l'ensemble du tronc commun, puis en janvier ou février de terminale, puis les épreuves majeures en juin. Bon, pour une simplification du bac, c'est très très simple, bien sûr, personne ne comprend rien, mais c'est pas grave. Bref, ils sont en évaluation permanente, sur des programmes extrêmement touffus, complexes, ce qui oblige à des survols complètement stériles de questions fondamentales. Et là, bachotage minable. Débrouillez-vous avec trois fois rien, mais voilà, ça a la forme à peu près de ce que l'on demande. Alors, je sais que je vais faire bondir mes camarades. La Révolution et l'Empire, qui ouvre le programme de première, doit être traité en 6 heures. Évaluation comprise, d'accord ? Avec des obligations de passage, notamment les fameux PPO, les points de passage obligatoires. Il y a les PPO. Parmi ces PPO, il y a Madame Roland. Et donc, on a une...
Ah, Madame Roland ?
Madame
Roland. Ah oui, liberté que de crimes on commet en ton nom. C'est ça, non ? Ah oui.
Madame Roland est en PPO. Alors, on a eu une formation au nouveau programme. Il respire de la menthe.
Il... Oui, il faut supporter.
Et donc, en formation au nouveau programme, un collègue, un des sbires de l'inspection, nous a montré comment on pouvait faire ce PPO sur Madame Roland en 3 heures. 3 heures sur Madame Roland en fabriquant un journal sur la vie et la mort de Madame Roland. Donc quand vous passez 6 heures sur la Révolution et l'Empire, dont 3 heures sur Madame Roland, ça ne laisse plus grand-chose pour le reste. Alors, j'ai soulevé la question lors de la réunion en disant que ça faisait quand même un peu maigre pour la suite.
Les bras m'en tombent des mains.
Là, tu vois, depuis qu'on a supprimé les SVT, les gens connaissent plus leur corps.
Du coup, il va reprendre un coup de blanc, là, je crois que... après la menthe.
Il y a mille moyens de se shooter.
Et donc, quand j'ai fait la remarque que, quand même, passer 3 heures sur Madame Roland, c'était quand même un petit peu réducteur.
Faut être endurant en même temps.
Voilà.
Quel tempérament. Oh putain, quel organe.
La nécrophilie est beaucoup plus répandue qu'on pourrait le croire. Hein.
Surtout sur la tête. Hein, parce que...
En plus, cette chère Manon avait une réputation de saute au paf parmi les Girondins qui était quand même très établie quand même. Hein.
C'est pas prévu au PPO,
ah,
ça.
Ah bon, ah bon.
Non, non, au PPO, on parle pas de ça.
Non, mais il n'y a pas d'effusion avec SVT.
Alors, là, effectivement, on peut poser des questions.
Je me demande vraiment si c'est utile de poser des questions. Ah, vraiment, je crois qu'on a dépassé.
Vaut mieux donner les réponses tout de suite. Sinon, ça emmerde. Et puis, c'est sélectif, les questions. Hein.
J'aurais appris que Madame Roland, elle était gironde.
Plus girondine que gironde, d'ailleurs. Et je me demande bien si c'est pas la raison profonde pour laquelle c'est un PPO.
Oui.
Parce qu'elle est girondine.
Je pense.
Voilà.
Je pense. Et donc, quand j'ai demandé aux collègues qu'il était peut-être un peu réducteur de résumer la moitié du temps à partie à Madame Roland, il m'a dit « Oui, mais quand tu as fait faire les articles de journaux à tes élèves, tu as quand même évoqué qu'elle a été tuée lors de la Terreur, etc. »
Et donc, vilaine terreur, et donc, vilain Robespierre, vilain Staline, Rousseau, Goulag.
Bah oui, et donc je lui ai dit, mais donc on résume la terreur, grosso modo, au fait de couper la tête à des braves femmes. Je dis que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Plus d'élargissement et de réflexion que le simple fait de couper la tête à une pauvre femme qui, par ailleurs, est jugée totalement admirable.
Cela dit, la pauvre Olympe de Gouges y est aussi passée, je crois.
Olympe de Gouges y est passée aussi.
Olympe de Gouges, c'était pas Madame Roland.
Voilà. Et donc, comment faire ? Quand vous passez 6 heures sur la Révolution et l'Empire, eh bien, ils ont trouvé la solution. Là aussi, on a cassé le thermomètre. Souvenez-vous des épreuves d'histoire. Avant, pour tout bachelier, l'épreuve durait 4 heures, avec une composition et un commentaire de document. Une composition, dissertation, le terme a un peu évolué dans le temps, mais l'idée était de recomposer des connaissances sur un sujet inconnu. Aujourd'hui, c'est fini, on apprend par cœur et on crache. Mais les S, qui représentent quand même l'essentiel hein, des bacheliers, désormais leur épreuve dure 3 heures et non plus 4 heures. Eh bien, dans la nouvelle mouture du baccalauréat, et pour tout le monde, ça durera 2 heures. 2 heures pour faire 2 épreuves. Alors, ce n'est plus une composition ou une dissertation, c'est une réponse à une question problématisée qui s'assimile à une simple question de cours dans laquelle on recrache 3 connaissances. Et vu le peu de temps apparti à l'épreuve, parce que ça s'ajoute à un commentaire de document ou à une production graphique dont on ne connaît pas très bien le contour encore. Que voulez-vous faire en une heure ? Que voulez-vous écrire en une heure ? Eh bien, pas grand-chose. Ben, ça tombe bien. De toute façon, comme on a vu tout à l'heure, ils ne savent pas écrire. Donc, comme ils ne savent pas écrire, ben, on ne les fait pas écrire. Et comme ça, tout va bien. Et ils auront des bonnes notes parce qu'ils auront parlé de Madame Roland en disant qu'elle est morte et c'est pas bien. Donc, voilà. abêtissement généralisé, programmé, multiplication des désillusions des jeunes gens dans le supérieur, que ce soit à la faculté, en classe préparatoire ou dans toute autre formation. Personnellement, je me suis retrouvé cette année à faire des cours à des premières années de méthodologie où on retombe sur des béaba d'écriture, comment on fait une introduction, comment on fait une conclusion, etc. Et je pense qu'avec la réforme, ça ne va pas s'améliorer. Tout cela, en fait, n'est pas seulement un cache-sexe à la misère intellectuelle qui se répand. L'auteur fait bien le parallèle avec un certain nombre de pratiques dans d'autres lycées. Je cite l'article. De son côté, le lycée Henri IV, dans le 5e arrondissement de Paris, maintient le cap.
C'est en ZEP, ça, hein, c'est en zone d'éducation prioritaire.
Ouais, zone d'éducation prioritaire.
C'est du social lourd.
Pour des gens qui gagnent moins de 100 000 euros par mois. Donc, jusqu'à la rentrée de septembre, soit 2018, soit avant la réforme du lycée, il mettait à disposition des élèves entrant en classe de première une liste d'ouvrages en guise de conseils de lecture d'été. En français, pour le seul chapitre « Réalisme et naturalisme », on dénombrait 43 titres. Donc, on voit bien que les pratiques élitistes se maintiennent dans un certain nombre d'établissements qui sont fréquentés par l'élite sociale du pays et qui se gardent bien, effectivement, d'aller sous ce forme d'exercice abêtissant. On sait très bien, par exemple, que la classe de TS1 du lycée Louis-le-Grand expédie le programme de maths qui avait été considérablement réduit en un trimestre. Et les deux autres trimestres, qu'est-ce qu'ils font? Les cours de maths sup. Voilà. Et quand ils arrivent en classe prépa, bah pour eux, c'est bien sûr beaucoup plus aisé. Si bien que nous, quand on envoie, par exemple, des élèves de nos lycées, moi, je suis en lycée Descartes de Tours, qui est censé être le lycée d'élite, blablabla. Bon, c'est beaucoup moins vrai que ce que l'on dit, hein, loin de là. Ben, nos élèves, même excellents, se retrouvent en queue de peloton lorsqu'ils rentrent à Louis-le-Grand en classe prépa, parce qu'ils sont face à des élèves qui ont déjà fait le programme, tout simplement. Et là, on voit l'incroyable inégalité qui s'institue au sein de l'éducation nationale. La bourgeoisie protège ses intérêts. Elle se constitue un mode éducatif à elle, dans certains lieux, dans certains espaces, c'est-à-dire des lycées privés spécialisés, certains lycées publics d'élite, mais il y en a très très peu, et surtout bah, qui font tourner tout le système privé complémentaire, Academia, etc., on va faire la pub, hein, pour toutes ces organisations qui sont là pour pallier les trous. Je prépare au concours de Sciences Po. On donne une petite prépa, une heure par semaine, gratuite, avec des compléments SES, etc. Et donc, je dispense avec quelques collègues des cours complémentaires visant à aider les élèves qui préparent ces concours exigeants. Alors, on obtient quelques résultats qui sont satisfaisants à la hauteur de ce qu'on fait. On donne ça gratuitement, hein, c'est le service public, à tous les élèves qui le désirent. Mais de plus en plus, les élèves me disent « Mais de toute façon, c'est bien, on vient, ça nous aide, ça nous stimule, on voit des gens, on travaille avec des gens, on fait des groupes de travail. Mais si on ne prend pas une prépa privée à côté, avec des cours, alors il y a tout un tas d'officines qui se sont spécialisées dans ce genre de choses, vous n'avez aucune chance, vous êtes mort. Parce que si vous contentez de vos cours de terminale, enfin de première et de terminale que vous dispensent vos professeurs, en appliquant le programme et les méthodes de tout le monde, parce qu'on prépare au baccalauréat, d'accord ? Eh bien, pour les concours exigeants, vous vous faites massacrer. Tout simplement, vous vous faites massacrer. Voilà, c'est le fric qui décide. Encore plus demain qu'aujourd'hui, et aujourd'hui c'était déjà pire qu'hier.
Alors vous venez d'entendre Cédric, sur le papier, le système a l'air égalitaire, mais à ce jeu-là, les enfants de la bourgeoisie auront toujours plusieurs longueurs d'avance pour devenir les quelques cadres de la société de demain. Cela dit, il y a des réussites qui donnent envie d'échouer.
Coureuses et militants, pour une société meilleure, dont ils seraient les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Et non violents qui s'en vont grossir les rangs, les bureaucrates et les marchands, étudiants, poil au vent. Je suis pas ton clan, pas ta race, mais je sais que le coup de pied au cul, que le philo bourgeois qui passe, il vient de l'école de la rue et il s'allie ma godasse. Maman, quand je serai grand, tu aurais pas été étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça j'en veux bien. On n'en veut pas, nous, notre maison. On se déconstruira nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main, quoi donc, l'habitat urbain. Je sais, ça ne fait pas marrer, je pouvais pas m'en empêcher. Maman, quand je serai grand, je voudrais. et froid et dégouillant. Ben alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas moi, gangster. Étudiant en médecine, tu vas marner pendant 7 ans pour être marchand de pénicilline, des saloperies de médicaments. Tu refileras des cancers à tour de bras et au prolo des ulcères parce que c'est un peu moins cher. Et le tiers-monde qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas malgré tous ceux qui vont crever. T'oublieras que je t'ai chanté, la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas moi, poète. Jamais on a voté. Tu fils juge ou avocat, ta justice on n'en veut pas. Et si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis s'il est pas là. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas moi, infirmière. Longtemps que t'as pigé, il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Leur culture nous fait gerber, on veut pas finir l'oufia au service de cet état, de cette société ruinée. Des étudiants respectables espèrent un jour diriger, entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien.
Ah, Renaud, chanteur, poète, rebelle, qui aujourd'hui embrasse des flics, mais qu'on aimait bien de son vivant. On retrouve les copains profs d'histoire géo pour cette émission Sabotage volontaire de l'école. André, tu nous l'as déjà expliqué à ce micro il y a au moins 15 ans. Toi qui as enseigné comme Daniel, d'ailleurs 43 annuités et demie à l'éducation nationale, tu as vu ce qui n'était pas de la maladresse des gouvernants, ce sabotage délibéré non seulement des contenus. Moi, j'ai souffert de ça. Ma génération, j'ai 50 piges aujourd'hui, je suis 69. J'ai eu affaire à une histoire qui n'avait ni queue ni tête. Avant, on avait de la propagande, hein, les chefs-lieux de canton, les machins, puis la chronologie. Vercingétorix, Jeanne d'Arc, avant moi, les gens savaient mettre ça dans l'ordre. Moi, j'ai souffert de la réforme Abi. J'ai appris une histoire sans queue ni tête, où on te parlait du blé en Russie, puis après des rois anglais qui décapitaient leurs bonnes femmes, et puis après du charbon en Chine. D'ailleurs, il y a des élèves qui ne savent pas ce que c'est que le charbon, qui osent pas le dire au professeur, parce qu'ils en ont jamais vu. Ah, tu sais, c'est le machin qu'on met dans les barbecues. Ah, ça, il y en a plein en Chine. Après, je suis passé par la Révolution française. On m'a dit que c'était une révolution bourgeoise, mais on m'a jamais expliqué ce que c'était qu'un bourgeois, donc j'étais bien avancé. Et puis, miracle, quand je suis arrivé en première vers la fin des années 80, l'histoire est redevenue chronologique, et j'ai soudain compris à quoi servait cette matière mystérieuse, aussi absconne, j'ose le néologisme, que ce qu'on nous appelait l'économie, où il y avait une bonne femme qui te racontait des conneries sur les vertus du capitalisme. Maintenant, je comprends ce qu'elle essayait de nous expliquer. Et il a fallu que j'arrive en première et que je tombe sur un excellent professeur qu'on a eu, toi et moi, au lycée Balzac à Tours, Cédric.
Monsieur Royer.
Avec sa grosse chevalière, qui était un mec qui en imposait et qui avait l'intelligence de nous donner des trucs mnémotechniques très branchés sur le cinéma. Et avec lui, d'un seul coup, j'allais plus en cours, j'allais écouter une histoire. C'était juste passionnant, je ne travaillais pas avec cet homme-là, je me cultivais, quoi. Nouvelle pensée pour notre professeur d'histoire géographique, à qui je suis extrêmement reconnaissant parce qu'il m'a donné les bases, une grille très basique pour comprendre, essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui. Mais André, quand on s'est rencontrés, je t'ai demandé, et tu m'as dit, c'est pas que les gouvernants, ils ont été négligents ou je sais pas quoi, ils ont, comme tous les services publics, comme l'hôpital, comme les retraites, comme la santé, comme tout, c'est un sabotage volontaire, non seulement des contenus, mais de l'outil. Je l'ai dit dans l'intervention de Cédric, j'ai pas pu m'en empêcher, mais moi, fils de prof, j'ai vu mon père tous les soirs, pendant plus de 40 ans, rentrer furieux et désespéré du boulot, parce qu'il se sentait comme un sparadrap sur une jambe de bois. Il a fait tout ce qu'il a pu, il a manqué d'y laisser sa peau. et surtout dire ils sabotent volontairement l'école, ils veulent pas que cette école fabrique des citoyens, ils veulent que cette école elle fabrique des veaux, parce qu'aujourd'hui avec les machines et les ordinateurs, on a besoin de quoi ? 5 à 10% d'une frange de la population qui sait réfléchir, écrire le français à la main, tous les autres, faut pas qu'ils réfléchissent, sinon ils pourraient lire des livres et peut-être même devenir dangereux et se révolter. Ce qui est d'ailleurs un faux calcul, comme on a pu le voir avec certains gilets jaunes. André, Cédric, ce qu'il vient de raconter ne fait que confirmer ce que tu nous as expliqué il y a déjà 10 ou 15 ans.
Oui, c'est la phase terminale d'un long processus. Et les gouvernants et les décideurs, les gens qui avaient le pouvoir, savaient ce qu'ils faisaient, avaient un dessein, avaient un but, et ils l'ont rempli. Progressivement, tu ne peux pas passer d'une école de la 4ème République, etc., telle que nous l'avons connue, hein, à ce que nous avons à présent, brutalement, en l'espace de 3 rentrées. C'est absolument impossible. Tu vois déjà les difficultés, tu vois, à bouger le truc d'année en année. Mais ils y sont parvenus, ça y est. Les profs, pour la plupart, qui sont en activité aujourd'hui, sont déjà des gens qui ont connu, tu vois, ce type de dégradation, ce type de pratique, tu vois, parce que c'est très subtil, tu vois. Hein, moi, j'ai eu des stagiaires étant professeur, et tu les voyais déjà avoir vachement évolué dans leur conception de l'enseignement, des programmes, de l'histoire, etc. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est un naufrage généralisé. Enfin, l'histoire...
C'est pas un naufrage, c'est un sabordage.
Oui, c'est un sabordage, c'est exact.
Comme il y a des naufrageurs.
Oui, oui, on ne s'est pas échoué sur un écueil. Il est vrai que l'évolution générale de la société, inclinée à ce type de sabordage, tu sais, les téléphones, les plaies, les tablettes, l'usage que font abusif, que font la plupart des gens de la crétinisation par l'informatique, est une donnée que l'éducation nationale, que les profs doivent prendre en compte, puisqu'ils ont en face d'eux des enfants qui sont des enfants de victimes de la consommation, victimes de l'usage de ces trucs qu'on leur a imposés en quelque sorte. Et de toute façon, quels que soient les efforts que nous aurions pu faire pour maintenir une qualité de l'enseignement, on se serait quand même heurté à des générations d'enfants abrutis. Moi, j'utilise des termes brutaux.
J'ai entendu mon père le dire tous les ans pendant 40 ans.
Les mots ont un sens, les mots ont un poids, et je les utilise sciemment dans leur sens littéral. Abrutis, c'est-à-dire rendu brut, quoi. Et c'est ces gens-là à qui il faut enseigner. L'enseignement, c'est un contact. L'enseignement, la pédagogie, enfin, pour moi, c'est pas une science, hein, c'est une cuisine, mais c'est une pratique entre des gens qui détiennent un savoir, une sagesse, des méthodes, et des apprenants, comme on dit maintenant dans le vocabulaire moderne, des gens qui apprennent. Encore faut-il que ces apprenants, ces gens qui viennent à l'école, soient réceptifs. Or, si tu veux, tout est fait pour les rendre parfaitement sourds, aveugles, à l'enseignement, au discours qu'il aurait fait, au comment faire. C'est vachement dur.
Alors non seulement ils sont abrutis de tablettes et de tout ce que tu veux, mais en plus, de toute façon, ce qu'on leur donne, c'est de la merde. Avant, au moins, on apprenait, on savait mettre Jeanne d'Arc avant Napoléon. C'était de la propagande, mais au moins, ça avait un peu de sens. C'est toi-même qui m'as expliqué, après la réforme Abi, on a arrêté l'histoire chronologique. Hein. Je me souviens qu'Alain Decaux, l'historien, était monté à la tribune pour s'insurger contre ce truc-là. Et c'est toi-même qui m'as dit, alors, on a vu les programmes qui sont arrivés, on arrête l'histoire, on fait des machins thématiques. L'histoire du transport à travers les âges, du char à bœuf jusqu'au TGV. Mais c'est surtout des chars à bœuf et des TGV qui flottent dans les limbes. Il n'y a surtout pas de société autour. Et évidemment, il n'y a surtout pas de riches et il n'y a surtout pas de pauvres. Ou alors le costume du Moyen-Âge jusqu'aux culottes de ma grand-mère. Évidemment, c'est des culottes et des brodequins qui flottent dans les airs. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il y a machin. Bah voilà, on a fait de l'histoire.
Alors, dans la dernière mouture des programmes, en classe de première et terminale, là, dans la réforme du lycée, on est revenu au contraire à une histoire très chrono, très événementielle, à la limite trop. Très, 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 très événementiel.
2019, Macron sauve l'Europe et le monde.
Le monde,
c'est dans les manuels de l'année prochaine.
Mais très chronologique, très événementiel, avec des personnages, etc. Mais le problème, c'est qu'on est tellement obligé d'aller vite, on est obligé de survoler les choses. Ça n'a plus de substance, ça n'a plus de chair, ça n'a plus de sang. C'est juste des dates qui ne signifient rien, des personnages qui ne signifient rien, Madame Roland et compagnie. Et tout compte fait, ça n'a aucun sens, parce que du coup, et en plus comme on doit évaluer en permanence, ce retour à une des formes de chronologie événementielle qu'on peut effectivement discuter, on peut en voir les intérêts, n'aura strictement aucun intérêt.
Pascal, qu'est-ce qu'un capitaliste ?
Un habitant de la capitale ?
Oui. Et un centenaire ?
Un homme qui possède 100 francs.
Très bien. Catherine, qu'est-ce qu'un palmipède?
C'est un homme qui vit dans les palmiers.
Très bien. Cathy, qu'est-ce que c'est qu'une grève générale?
C'est quand les généraux sont en grève.
Oui. Brigitte, pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre dans une boîte?
Pour ne pas qu'elles boivent l'huile.
Passons à l'histoire de France. Jérôme, qui a repoussé les Arabes à Poitiers?
Ils ont repoussé tout seuls.
Oui. Et où fut signé le traité de Versailles?
En bas de la feuille.
Très bien. Vincent, le défaut de celui qui est avare, c'est l'avare?
La varicelle.
Et l'impératif du verbe se taire?
Chute.
Vous savez que les perles, c'est très formateur pour les enfants. Mais oui, ça leur montre les erreurs à ne plus faire. Quand il y a une perle qu'ils ne comprennent pas, qui ne les fait pas rire, ils cherchent ensuite dans le dictionnaire pour essayer de comprendre quelle était la réalité.
Et ils sont aussi devenus des auditeurs un peu trop attentifs, puisque vous recueillez maintenant les perles des maîtres.
Et je voudrais vous en citer une qui est ma préférée. C'est un proviseur qui arrive dans une classe pour rendre une composition de mathématiques et il prend un air sévère et il dit « Je vois peu d'entre vous qui sont dans les 10 premiers ».
Daniel, toi qui as aussi été professeur d'histoire-géographie pendant 43 ans et demi, tu l'as vu venir aussi. Sabotage de l'école.
Oui, oui. Alors, en entendant Cédric, j'ai beaucoup ri, mais je pense que c'était pour ne pas pleurer, quoi. Et à la fin, j'ai plutôt envie de pleurer. Et je suis un peu déprimé. Alors, non, honnêtement, je suis un peu déprimé. Non,
parce que toi, par exemple, qui est un fils d'artisan, tu sais ce que tu lui dois à l'école de la République?
Tout. Je lui dois tout. L'idée que c'est un sabotage d'une stratégie, c'est une assez grande évidence. Et justement, puisqu'on parle d'histoire, à partir de quel moment cette stratégie est mise en place? La réforme habite.
Oui, voilà. Et c'est les moments où Thatcher arrive au pouvoir en Angleterre et où Reagan s'apprête à monter sur le trône des États-Unis. Cette contre-offensive néolibérale, voilà. D'ailleurs, comme avait dit le Piscopi du MEDEF dans Challenge un peu plus tard en 2007, Denis Kessler. Ouvrez les guillemets, nous, le patronat, le capitalisme, en tout cas en France, ce qu'on veut, c'est détruire tous les acquis et conquis du CNR, le Conseil National de la Résistance, qui inclut l'école, la sécurité sociale, les services publics, la retraite, l'hôpital, etc. Oui, ils l'ont dit, hein, et ils tiennent parole, les salauds.
Ça se perçoit à partir des années 70. On est post-68, avec la grande peur d'une partie des possédants et d'une partie des mandarins et de l'université et des lycées. C'est la fin des Trente Glorieuses. Il va bien falloir faire avaler la pilule. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'école de Chicago, les néolibéraux, etc. Et alors je pense qu'en histoire, c'est particulièrement visible. Nous qui devons à l'école beaucoup de choses. Alors c'est vrai que j'en avais presque envie de pleurer en écoutant Cédric, quoi, parce que c'est terrifiant. Mais c'est un aspect particulier d'une stratégie générale. Voilà.
Un prof d'histoire géo, un peu nerveusement, il n'y a pas très longtemps, m'a raconté qu'une de ses petites cinquièmes lui avait soutenu mordicus que avant, dans ce passé indéterminé, avant, les gens vivaient en noir et blanc. Ils vivaient dans des paysages plus ou moins gris. Les maisons, les vaches, les paysages étaient gris foncé, gris clair. Parce que c'est ainsi que la caméra a saisi ces moments. André ?
C'est totalement angoissant. C'est angoissant quand tu t'aperçois que les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, etc., l'histoire, c'est terminé. Rideau, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu naïf, un peu décalé, le titre de Manière de voir aux armes historiens. La bataille est-elle encore gagnable? À qui on s'adresse? Parce que d'où viennent maintenant les références historiques des gens? Eh bien, ils viennent de Netflix, de la multitude d'images, d'histoires et de séries qui sont fabriquées en grande partie par les Américains, les Anglo-Saxons, etc., qui fabrique l'histoire. Alors des fois, tu as là-dedans des pépites au milieu du fumier, des séries remarquables. J'ai vu Rome, une excellente série, absolument remarquable, mais c'est très unique. Hein. Sinon, si tu veux, on a l'impression que on revient à une période un peu... Je vais parler du Moyen-Âge. Que peut-on penser de la masse des gens au Moyen-Âge et de leur notion de l'histoire?
Le Moyen-Âge, c'est Game of Thrones. Cédric a fait un bouquin là-dessus.
Non mais, soyons sérieux. La masse des gens, de la paysannerie à la bourgeoisie et aux masses populaires urbaines du Moyen-Âge, et même d'une grande partie de l'élite, l'histoire, c'était quoi? Pour ces gens du XIIIe siècle, on va dire, de l'Occident médiéval, c'était rien. Enfin, je veux dire, pour ce que nous savons, nous, de l'histoire, ces gens ne savaient rien. l'aliénation était totale. Ces gens étaient dans une société qu'ils pensaient être de toute éternité. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est la même chose. Les gens sont totalement aliénés, n'ayant plus d'histoire, ne sachant plus d'où ils viennent et où ils vont, et qui ils sont. Ils sont complètement aliénés. Alors, c'est formidable pour l'oligarchie qui nous gouverne. La situation, elle est idéale. Je vous renvoie à cet égard à une série extraordinaire, je vous conseille de la voir, qui s'appelle Dark Crystal. Dark Crystal, une série américaine probablement. Elle est vachement intéressante. Catégorie onirique, poétique, un lieu indéterminé, une planète qui n'est pas la Terre, qui est autre chose, avec une société qui est tout à fait différente. Mais c'est quand même une société, il y a des classes sociales, et il y a un discours sur la domination et l'aliénation. Parce qu'il y a une oligarchie, les sexes, qui dominent des petits elfes divisés en clans. Et pourquoi obéissent-ils aux sexes qu'ils pourraient vaincre? C'est parce qu'ils pensent que la domination de ces gens est bienveillante. Ils sont aliénés, quoi. Ils ne savent pas où ils sont. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est très intéressant. En gros, il va falloir repartir à zéro, au point où on en est, si tu veux. Il va falloir dire, bon, bah, tous ces trucs-là sur la lutte des classes, les analyses sociologiques, etc. Tout ça est rasibus dépassé. La masse des gens ignore qui ils sont, ce qu'ils sont, comment fonctionne le monde, etc. Et peut-être découvriront-ils un jour la clé pour se débarrasser de leur esclavage. Parce qu'en fait, sans histoire, les gens sont des esclaves. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se transforment en esclaves, même s'ils sont sous chef de rayon au bon marché.
Les analyses marxiennes dans les séries anglaises ou américaines, on en a déjà parlé avec Cédric lors de la sortie de son bouquin sur Game of Thrones, intitulé
« Game of Thrones, de l'histoire à la série ».
Toutes les séries anglaises, comme Ripper Street par exemple, sont absolument sans ambiguïté sur les riches, les pauvres. Les Britanniques sont très très bons, hein, surtout quand ils parlent du Londres victorien du 19e siècle. Regarde aussi les Peaky Blinders, et c'est sans ambiguïté sur la lutte des classes, surtout que c'est ce siècle qui bouillonne avec les suffragettes, les courants anarchistes. Et je vous conseille également une autre série dont je vous ai déjà parlé, ça s'appelle Hell on Wheels, l'enfer sur roues. Ça se passe vers 1865 aux États-Unis. Ça raconte l'histoire de ces pionniers du rail qui posent la première ligne de chemin de fer qui va traverser le pays. Et dans cette micro-société capitaliste qui avance vers l'ouest, vous avez bien le riche patron qui fume son cigare dans son wagon de luxe et tout en bas de l'échelle, le lumpen prolétariat qui pose les rails. Des prolétaires amenés à se déchirer entre eux, des travailleurs chinois qui font concurrence aux travailleurs irlandais, qui pour se passer les nerfs lynchent des ouvriers noirs. Le discours social de Hell on Wheels, série pourtant américaine donc, est sans aucune ambiguïté. C'est un discours marxien qui explique la lutte des classes et sur quels crimes capitalistes se sont construits les USA. Et avec tous ces personnages, ceux qui sont en connexion avec toutes les classes sociales, vous avez généralement le shérif ou l'inspecteur de police et la prostituée. Chose d'ailleurs qu'on a pu aussi voir dans Game of Thrones, mais sans tomber dans l'onirique, le Dark Crystal ou le Game of Thrones, vous avez de très très bonnes séries. Et d'ailleurs, c'est même stupéfiant parce que du temps d'Elia Kazan dans les années 50, c'était le cinéma qui portait un discours social sur la lutte des classes, sur machin, les raisins de la colère. Etc. Aujourd'hui, le cinéma, c'est Hollywood, c'est des machins à manger des pop-corns, faut que ça raconte surtout rien, parce que pour faire du fric, donc des entrées, il faut rassembler le plus de spectateurs possible, donc autour des plus petits dénominateurs communs, les plus débiles si possible, etc. Et paradoxalement, ce sont les séries anglaises et américaines qui, à l'occasion, quand elles racontent pas des conneries, nous donnent des grilles d'analyse marxienne à défaut de marxistes.
J'adhère entièrement à ce que tu viens de dire. J'ajouterai une chose. Lorsque j'enseignais dans les dernières années de mon enseignement en première et terminale, j'encourageais vivement les élèves à regarder les guignols de l'info qui existaient encore à l'époque et qui étaient remarquables sur le plan de l'analyse politique, en fin de compte, et de la vision de la politique par les élèves. Et il y avait plus à gagner à regarder ça que n'importe quelle émission qui se voulait éducative à l'époque.
Cédric,
dans la série des séries. Actuellement, il y a Ears on Ears. Alors, mon accent est absolument lamentable.
Les oreilles sur les oreilles ?
Non, les années sur les années.
Years and years.
Ouais, years and years. Et avec une Emma Thompson transformée en une pseudo Marine Le Pen, à la tête d'un mouvement qui s'appelle 4 étoiles et qui va progressivement dans un climat de tension internationale entre les États-Unis et la Chine, dans un cadre d'invasion migratoire, je mets 36 000 guillemets, d'Ukrainiens victimes de l'expansionnisme russe, qui va progressivement installer un régime fascisant en Angleterre. C'est
excellent.
C'est vraiment excellent parce que vous avez toutes les problématiques d'aujourd'hui, tous les conflits géopolitiques qui sont poussés à leur là où ils pourraient arriver. Avec des clins d'œil, le 4 étoiles, voilà, Emma Thompson avec sa mèche à la Marine Le Pen, mélangé avec des petits éléments de technologie qu'on commence à voir apparaître, hein, notamment les Google Home, etc., qui connectent tout le monde, qui espionnent tout le monde. Et c'est absolument terrifiant. C'est une mini-série de 6 épisodes, c'est terrifiant.
Et bien entendu, vous cimentez tout ça avec quelques saisons de Black Mirror. C'est quand même un must. Les gens qui fabriquent des séries, en fait, ça sert à quoi ? À vendre du temps de cerveau disponible. Les gens s'abonnent à des chaînes privées pour avoir des programmes intelligents ou qui leur parlent. Donc, y a une demande pour des séries intelligentes, parce qu'il y a des gens qui payent pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, les gens ? Ils ont les mêmes choses que nous. Il n'y a qu'à voir l'explosion, le succès des séries de morts-vivants, Z Nation, The Walking Dead, Romero avait déjà senti tout ça, mais la fin de ce qu'on appelle l'humanité, la fin de cette soi-disant civilisation, tout le monde a bien compris que tout ça ne va pas durer très très longtemps, et qu'évidemment ces hordes de zombies, ce sont des métaphores, hein. Ces gens qui vont venir t'étriper pour une boîte de petits pois. Et d'ailleurs, il y a un autre phénomène qui m'a estomaqué même, c'est de l'Uchronie, notamment une reprise du roman de Philip K. Dick, Man in the High Castle, et je crois qu'il y a aussi un truc qui s'appelle SS UK. Voilà des séries qui se posent la question, et si les nazis avaient gagné ? Dans quel monde serions-nous aujourd'hui ? Les séries, en fait, elles reflètent les préoccupations des gens, et ce qu'ils ont dans le crâne, et ce dont on a peur, tous collectivement. Et pour évoquer une excellente série française, même si on peut en faire la critique, il aura fallu attendre un village français pour qu'il se dise enfin à la télévision des choses désagréables, mais vraies, sur ce qu'a été la période de l'occupation et de la collaboration en France de 1940 à 1944. Et le comble, c'est qu'un village français, qui est donc une fiction, est à bien des égards bien plus dans la réalité historique que la plupart des soi-disant documentaires d'histoire que la télé nous présente sur ce sujet et cette époque. Et qu'une série télé soit plus explicite qu'un cours d'histoire, ben, je comprends que ça puisse un petit peu faire mal au tété d'un historien et d'un professeur d'histoire, André.
Nous sommes extrêmement intéressés et positifs à l'égard de séries qui peuvent faire réfléchir les gens, les jeunes en particulier, sur la géopolitique, l'histoire, leur passé, les luttes sociales, etc. Quel naufrage pour l'éducation nationale. Moi qui ai travaillé 40 ans dans l'éducation nationale, tu te rends compte ? Je suis sûr que la vision qu'ont les jeunes du monde aujourd'hui doit beaucoup moins à mon enseignement qu'à ces séries, qu'aux images de certaines séries, etc. Ce que je regrette, c'est que toutes les séries ne sont pas de qualité. Il y a aussi une quantité de séries dont l'idéologie est absolument épouvantable. Enfin,
c'est l'essentiel de la production. Hein. L'Empire américain qu'il faut continuer à respecter.
C'est fasciste, carrément. C'est-à-dire avec la violence, etc. Bon, des trucs comme ça.
Et même pour les mômes, hein, tu as des téléfilms Disney, etc. où c'est des histoires de code. Blondes, évidemment, qui font des concours pour savoir qui c'est qui va se marier la première avec le capitaine de football de l'équipe du collège. T'as un discours.
Ça, c'est navrant. Pour autant, je pense qu'il faut continuer la lutte. Je pense quand même que nous, historiens, même à la retraite, hein, nous avons un rôle à jouer, hein, pour raconter l'histoire. Faut raconter l'histoire. Faut pas avoir peur. Même jusqu'à la mort, moi, si on m'invite, je raconterai l'histoire aux enfants.
Pas qu'aux enfants, à leurs parents aussi.
À tout le monde, absolument. Raconter l'histoire comme elle s'est vraiment passée, introduire le doute dans leur tête, c'est-à-dire on vous raconte des conneries depuis des années, ne croyez pas ce qu'on vous raconte, On vous bourre le mou, on vous enfume. L'histoire, ça n'a pas été ça. C'est autre chose.
On ne peut pas savoir où on va, et encore moins où on est, si on ne sait pas d'où on vient.
Les gens, d'ailleurs, ont besoin de leurs racines. Il y a une recherche de chez certains désespérés ou de trouver d'où ils viennent et qui ils sont réellement et tout comme ça. Et les gens y tiennent énormément. Hein. Par exemple, dans l'opinion au Front National, il y a une grande partie d'attachement aux racines. Est-ce que cet attachement est une chose négative, bête, imbécile ? Pas forcément. Bon, elle est détournée, elle est manipulée par certains. Mais pour autant, elle est légitime, cette recherche du passé et cet attachement au passé.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette émission insolente et malpolie, souvent animée par des profs révoltés et insoumis, que vous pouvez réécouter ainsi que plein d'autres choses sur notre site polymixetlavoixoff.com, où vous pouvez aussi vous abonner au podcast de ce programme avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne. Salut.
Terminé.
Les petits contes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G.